La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et au menu de notre club cet après-midi, une méthode pour apprendre à aimer les maths qui fait un carton, un manga pour crever le plafond de verre et encourager les femmes à faire de la science, et puis le bug humain ou pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Je vous présente mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la Une de la Science, on revient Héloïse sur cette étude parue cette semaine qui donne des chiffres alarmants sur la perte de biodiversité parmi les insectes.
Oui Mathieu, les chiffres sont marquants. Les auteurs de l'étude en question parlent de 40% d'insectes menacés d'extinction. On va en parler tout de suite avec notre invité.
Et c'est Fanny Boyon bien sûr qui est aux commandes de ce club préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier, Irène Menahem et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et nos invités, bien sûr, que je salue, Nicolas Pinel, Émilie Tozello, Olga Markova et Sébastien Boller. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, Nicolas Pinel, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en école primaire et le créateur de la méthode heuristique de mathématiques de la maternelle au CM2. C'est un guide qui remporte en ce moment un énorme succès. Il s'est déjà vendu, paraît-il, à plus de 20 000 exemplaires.
C'est
un chiffre qui fait rêver beaucoup d'auteurs en ce moment. Quel est le secret, justement, du succès de cet ouvrage?
Ah, le secret, je ne sais pas, ça a été un succès surprenant aussi pour moi. Le succès, je pense que ça a répondu à des attentes des enseignants.
Voilà, ouais.
On avait des enseignants qui cherchaient vraiment quelque chose de nouveau et d'innovant, et ils s'en sont emparés, et quasiment tout a été vendu l'été dernier, en fait, en juillet et août.
C'est ça, oui.
Parce qu'effectivement, les enseignants travaillent beaucoup pendant leurs vacances.
Oui, c'est ça, comme vous d'ailleurs, c'est ce que vous avez
voilà,
fait hein, pour écrire ce guide. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils s'en soient emparés aussi vite, hein, parce que c'est souvent difficile d'introduire de nouvelles méthodes au sein de l'école, et on verra pourquoi ça a marché. Pour vous, dans un instant, sur cette question, évidemment, très importante des mathématiques. Émilie Tozello, vous êtes auteur de manga, et Olga Markova, biophysicienne, et donc ensemble, vous publiez Plafond de verre aux éditions de la Fondation Ibsen Book Lab. Il s'agit donc d'un manga pour encourager la présence et la visibilité des femmes dans les sciences. Émilie Tozello, vous avez choisi de raconter l'histoire d'une jeune docteure dans un laboratoire de recherche, c'est ça? Mais façon manga.
Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, le principe, c'était de pouvoir toucher tout type de public et surtout les plus jeunes, en fait, histoire de les préparer, en fait, éviter de penser, en fait, que les femmes n'ont pas leur place et ne puissent pas gravir les échelons,
ouais.
De rester sur ces stéréotypes-là, en fait. Dans les vieux mœurs, en fait.
Et le manga, c'est un bon support, hein,
tout à
justement,
fait, ouais.
Pour toucher le jeune public. Et c'est votre premier, donc on va en parler aussi dans un instant.
Oui.
Il y aura un lien, évidemment, avec les mathématiques, hein, parce que ça concerne beaucoup, justement,
les
maths, ce plafond de verre. Olga Markova, vous êtes biophysicienne, mais également directrice d'une collection de livres scientifiques destinés aux enfants. Donc ça veut dire qu'on peut commencer très très tôt la sensibilisation à ces questions-là?
C'est justement, il faut commencer tôt. Les filles doivent savoir qu'elles sont la chemin ouverte pour eux, pour aller là où le destin les amène. Ils doivent aller et demander leur poste et s'installer bien dans la science.
Oui, mais c'est pas toujours simple, hein, et vous avez vous-même rencontré quelques difficultés. On va en discuter dans un instant. Sébastien Boller, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre dont vous êtes l'auteur, Le bug humain, qui paraît chez Robert Laffont, ou Pourquoi notre cerveau, c'est le sous-titre, hein, nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Ce que vous nous expliquez en gros, c'est que notre cerveau n'est pas toujours notre meilleur ami, qu'il y a un petit organe qui se cache à l'intérieur qui pourrait être l'explication à beaucoup de choses.
Oui. L'interrogation, moi, qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était de voir dans quelle aventure nous sommes engagés. Cette espèce d'extinction de masse, cette catastrophe climatique qui nous attend. Et paradoxalement, le fait que nous sommes incapables de réagir, c'est-à-dire que si nous prenions vraiment conscience de ce qui nous attend, nous changerions immédiatement tout. Donc quelque chose dans notre configuration mentale ne fonctionne pas de mon point de vue. En tout cas, c'était mon interrogation. Et en creusant vraiment dans les mécanismes de fonctionnement de notre cerveau, effectivement, je me suis aperçu qu'il y a une grande contradiction dans le fonctionnement cognitif humain. C'est-à-dire que nous sommes capables de créer un monde entièrement à notre service, avec des technologies qui nous donnent tout ce que nous voulons, mais nos motivations profondes sont toujours tournées vers notre plaisir personnel et sont à terme destructrices.
Ouais, et ça s'explique par la biologie, hein, concrètement. Et
tout on à fait, par l'évolution de notre cerveau, tout ouais. à fait, qui n'est plus programmé pour faire face aux enjeux du présent.
C'est une thèse que vous proposez finalement, qui est vraiment très très intéressante. On va en discuter avec vous dans un instant. Ça paraît chez Robert Laffont. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes, mais bien sûr, vous allez pouvoir réagir à notre sujet de une. Le chant des insectes qui disparaissent. Hein. Malheureusement, on les entend s'éteindre là, justement, des insectes qui doucement se taisent aujourd'hui à la une de la science, Héloïse, pour évoquer donc cette nouvelle étude sur la biodiversité, mais cette fois-ci spécifiquement sur les insectes.
Oui, Mathieu, c'est une étude menée par des chercheurs australiens qui vient d'être publiée dans la revue Biological Conservation. Les auteurs font état de 40% des insectes en voie d'extinction. Alors, est-ce qu'il y a matière au catastrophisme le plus total? On en parle avec Hervé Le Guyader, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en biologie évolutive à Sorbonne Université. Alors, avant toute chose, il faut dire que cette étude, elle n'est pas exhaustive. Elle ne s'est pas penchée sur la situation des insectes du monde entier.
Ah, elle n'est pas exhaustive, loin de là. Puisque dans le titre, c'est les insectes du monde. Et en fait, les données correctes ne correspondent qu'à l'Europe et l'Amérique du Nord.
Oui.
C'est-à-dire, sans l'Amérique du Sud, sans l'Afrique et sans l'Asie du Sud-Est, ça fait toutes les forêts tropicales et équatoriales qui ne sont pas répertoriées. C'est assez bizarre pour un tel travail.
Ouais, ça remet en question les titrailles qu'on pouvait lire justement toute cette semaine, très catastrophistes hein, sur ce
moi
thème.
Moi, je trouve que ça remet en question les choses, si vous voulez. Et encore, quand vous regardez les données sur la Chine et sur l'Australie ne correspondent qu'aux abeilles. Vous voyez que il y a rien sur la Russie. J'insiste. Il y a même pas le Canada et la France n'est représentée que par une donnée sur la Camargue. Enfin bon. C'est assez désolant de faire un buzz avec un papier qui quand même bon les données sont là, on peut en parler, elles sont pas fausses, mais de là les étendre sur toute la planète, il faut pas exagérer.
Et non seulement le monde entier n'est pas pris en compte, mais toutes les sortes d'insectes ne sont pas pris en compte.
Alors là si vous voulez, ils ont pris en compte les quatre ordres qu'on appelle les quatre ordres mégadivers, hein, qui sont les diptères, hein, c'est qu'à deux ailes comme toutes les mouches, les lépidoptères, donc les papillons, les coléoptères, lucanes, hannetons, et les hyménoptères, abeilles, bourdons, etc. Mais ces quatre ordres font 80% de la diversité, si vous voulez, j'ai fait les comptes pour l'émission, décrit sur les quatre ordres mégadivers, il y a 760 000 espèces, et pour tous les hexapodes, pour tous les insectes, on a 920 000 espèces. Donc vous voyez, là, de ce point de vue-là, ça correspond quand même à une bonne étude.
Ouais, donc du coup, ce chiffre de 40%, malgré le côté parcellaire des données, il a du sens pour vous?
40% des insectes menacés de disparition. Hein.
Alors, il a du sens en Europe et aux États-Unis, c'est-à-dire, si vous voulez, dans des circonstances très particulières, ou avec des milieux extrêmement cultivés, avec une agriculture intensive, avec donc des remembrements. Vous voyez, donc vous pouvez pas comparer avec la forêt amazonienne, c'est sûr.
Et ce chiffre donc de 40% d'espèces menacées d'extinction, si on le compare avec le règne animal, par exemple les vertébrés, c'est plus, c'est pareil?
Prenez le dernier rapport de l'IUCN et du WWF, pour les vertébrés, c'est de l'ordre de 15% de vraiment menacés. Donc, c'est un pourcentage bien supérieur et qui correspond d'ailleurs à ce que disent déjà les spécialistes du Muséum INRA, par exemple.
Et qu'est-ce qui explique cette plus grande vulnérabilité? Quels sont les dangers qui pèsent particulièrement sur les insectes?
Alors, quand vous regardez les choses, et de ce point de vue-là, sur les dangers, le travail est bien fait dans le document, les dangers sont les mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est perte d'habitat, ce sont les pesticides, ce sont donc les polluants, et arrive en dernier point, j'insiste là-dessus, tout ce qui tourne autour du réchauffement climatique. Souvent, on confond perte de biodiversité avec réchauffement climatique, et le réchauffement climatique a un impact, bien évidemment, mais qui est un impact beaucoup moindre que, par exemple, de manière toute bête, si vous voulez, la perte des haies, par exemple, en Normandie ou en Bretagne, a eu un impact extraordinairement important sur les oiseaux et aussi extraordinairement important sur les insectes, bien sûr. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est aussi la perte des zones humides, qui sont extrêmement importantes, puisque beaucoup d'insectes ont un stade larvaire aquatique.
Et alors, il y a un impact aussi sur les écosystèmes au sens large. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette souffrance des insectes ?
Alors, c'est une conséquence large, puisque d'une part, dans les chaînes alimentaires, les insectes ont une place extrêmement importante. Je viens de parler des oiseaux, vous avez les batraciens, on oublie aussi, il y a les chauves-souris. Dans le papier, ils insistent beaucoup sur les papillons nocturnes, que l'on suit moins que les papillons diurnes, ils sont moins jolis aussi, il faut bien dire. Et donc, le fait de cette baisse d'insectes a un impact important sur tout ce qui est, entre guillemets, insectivore, en n'oubliant pas les petits mammifères que je n'ai pas cités. Et d'autre part, une importance considérable vis-à-vis de la flore, en particulier pour tout ce qui est les pollinisations. Pollinisation, que ce soit au niveau des herbacées ou des arbres, comme des arbres fruitiers, par exemple.
Donc, Hervé Le Guyader, la situation est critique quand même, dans bien des endroits de la planète, mais il faut mesurer un petit peu les propos sur les conclusions et les gros titres qu'on peut en faire.
Oui, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de données, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau des forêts. Par exemple, je pense qu'en Afrique, il y a des disparitions. La forêt amazonienne est attaquée. Dans les Philippines, vous avez des déforestations importantes. Vous avez certainement des disparitions, mais il n'y a pas de données. Moi, je suis un scientifique. Il n'y a pas de données, on dit rien.
Ouais. Alors, très vite, parce que ce sera le sujet de la discussion tout à l'heure avec Sébastien Boller, il y a ce paradoxe, finalement, on est face à une situation quand même très très inquiétante, on va, on le sait bien, droit dans le mur, dans bien des secteurs, et pourtant, l'humain ne réagit pas. Quelle est votre explication, vous, par rapport à cela,
Écoutez, moi j'étais ravi de ce que j'ai entendu, je suis en train de rédiger un papier là-dessus, et à mon avis, tout vient du problème du désir et du temps. Tous ces papiers, si vous voulez, on en parle, et puis ça fait comme de l'eau sur la plume d'un canard, on en parle pendant quelques temps, et puis après, tout le monde s'en fout.
Sébastien, c'est exactement ça, hein, pour c'est le coup, on est dans ça. Le sujet.
Oui, oui. Quelles sont nos motivations profondes? Et quand on regarde au niveau cérébral, les motivations profondes, elles sont très très simples.
On en discutait évidemment avec vous dans quelques minutes. Merci beaucoup Hervé Le Guyader, hein, d'être venu à la Une de la Science. Merci Héloïse.
À lundi.
Passez un bon week-end.
Mais vous aussi Mathieu.
À lundi. C'était M, bien sûr.
La tête au carré, le club.
Allez, vas-y.
X moins X.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, parce que ce qui est important, c'est pas le résultat. Le résultat, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le raisonnement qui amène à ce résultat. T'as compris?
Ouais.
Encore 5 minutes d'attention. Et puis après, je vous raconterai l'histoire du zéro.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, un petit extrait du Péril Jeune pour parler dans un instant de mathématiques, puisqu'au sommaire de ce club, une méthode sur les maths qui remporte un énorme succès. On va également parler d'un manga pour crever le plafond de verre et encourager les femmes à faire de la science. Et puis donc le bug humain, ou pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment également l'en empêcher. Et Nicolas Pinel, on va commencer avec vous. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en école primaire. Vous avez donc créé la méthode heuristique de mathématiques de la maternelle au CM2. C'est un guide qui est en ligne, qu'on peut également trouver en librairie aux éditions Net et qui sera bientôt publié aux éditions Nathan. 20 000 exemplaires de votre méthode ont déjà été vendus. Avant d'en parler, je voulais témoigner et vous dire que j'ai des souvenirs très particuliers de la venue des inspecteurs de l'éducation nationale quand ils arrivaient en classe. Il y avait comme une espèce de tension. C'était très amusant parce qu'on sentait vraiment que c'était un moment particulier et on était briefés par nos enseignants qui nous disaient surtout tenez-vous bien parce que l'inspecteur va arriver. Et alors, votre présence toute la journée comme ça dans la classe, c'était une vraie tension quand même. Hein.
Mais c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Vous faites peur à tout le monde en réalité. Hein.
La première fois, après, ça va mieux.
Ouais. Et donc, vous avez passé beaucoup d'heures à observer ce qui se passait. Et oui. C'est peut-être ça qui vous a donné l'idée aussi d'écrire ce guide.
Il y a plusieurs choses. Avant d'être inspecteur, pendant 10 ans, j'étais formateur d'enseignants. J'étais conseiller pédagogique. Et puis, au-delà d'une appétence personnelle pour les mathématiques, c'est une question qui est souvent revenue de la bouche des enseignants et puis aussi dans les classes où on voyait des enfants dépités par les mathématiques, voire dégoûtés très jeunes. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a très vite interpellé.
On peut témoigner, je vois Émilie Tosello
qui
opine également du
oui,
c'est ça,
maths.
Vous avez été traumatisée, Émilie, par les maths?
Je déteste les maths.
C'est vrai.
Mais c'est peut-être pour moi, du coup.
Je suis sûr que vous allez être réconciliée avec les mathématiques dans un instant. Ouais.
Ah, bah, c'est une bonne idée.
Il y a un vrai problème avec ça, quand même. Hein.
Oui, il y a un vrai problème. Mmh. Il y avait le film documentaire qui est sorti de Payon il y a quelques années sur comment j'ai détesté les maths. Mmh. Et c'est vrai que ce documentaire nous redisait tout. On a en France particulièrement un problème avec l'enseignement des mathématiques. D'élèves qui très vite en sont dégoûtés, qui rejettent cet enseignement et parfois avec une sorte de connivence familiale où les parents disent de toute façon c'est pas grave, j'étais nul aussi en maths.
C'est ça, oui.
Comme si c'était génétique ou que c'était une maladie contagieuse.
Ouais.
Et c'est vraiment ça qui m'a motivé au départ. Donc cette création, parce que c'est vraiment un travail de création, partait d'abord de l'idée, avant tout, de donner aux enfants l'envie de faire des mathématiques. Mmh. Et derrière aussi aux enseignants. Parce que les enseignants, les professeurs des écoles sont pas toujours à l'aise. On a très peu de professeurs des écoles qui sont de formation scientifique. Et ça, c'est une vraie difficulté qu'on rencontre. Qui sont souvent de formation littéraire ou de sciences de l'éducation, etc. Et eux-mêmes sont pas à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise en quelque chose, c'est plus dur à enseigner. Mmh. Donc l'idée, voilà, c'est de créer vraiment un concept où j'enseigne les maths aussi de façon traditionnelle, parce qu'à un moment, il faut faire des exercices, il faut faire des gammes, mais aussi je peux prendre du plaisir, je fais
alors
les
voilà,
jeux.
Vous avez prononcé le mot, le plaisir.
Ah, il en faut, voilà. Il en faut.
Et c'est on peut en donner
et c'est la clé.
En mathématiques. Olga Markova, biophysicienne, donc Olga, vous avez fait beaucoup de maths aussi.
Oui,
hein,
tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je dois dire que c'est pas que les enfants, les adultes aussi, ils se tendent rigides des mathématiques. Donc ça m'est arrivé d'intervenir à un séminaire des psychanalystes pour raconter des théorèmes de Stock, parce que ce théorème apparemment a joué le rôle important dans
le psychanalyse. Théorème de Stock.
Oui, c'est le théorème de Stock très important dans mathématiques. Et j'ai utilisé les métaphores, les tables qui tournent pour raconter ce théorème. Et après le séminaire, il y avait trois personnes psychologues qui m'ont venu voir et dire Mais moi, je pensais que mathématiques, c'est ennuyeux. Mais là, on est adoré, on est amusé. C'était vraiment amusant de comprendre comment ces chambres traversent le bord. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de plaisir à moi. Et je raconte qu'il y a cette barrière psychologique chez les enfants installés et après chez les adultes, qui, justement, avec votre méthode, peut-être on va arriver des...
C'est de leur donner une autre image, clairement de changer l'image. Les mathématiques, c'est pas qu'une série d'équations. D'ailleurs, c'est souvent illustré comme ça dans la presse. Vous savez, on met un tableau noir avec plein d'équations incompréhensibles. C'est aussi la société qui donne cette image des mathématiques, alors qu'elles peuvent être passionnantes et qu'avec des élèves très jeunes, on arrive à faire des choses complexes en mathématiques. Parce qu'on met du sens derrière. C'est vraiment là qu'il y a un travail de fond à faire.
Alors, la méthode heuristique, ça veut dire quoi?
Ah, voilà.
Le mot, il n'est pas très engageant, déjà.
Non, je sais. Oui. Le mot n'est pas engageant. Et puis, il est extrêmement polysémique. Au départ, ce qu'il y avait derrière ce mot, c'était le lien avec Eureka. Et ce que j'aime bien dans l'expression Eureka, c'est pas seulement j'ai trouvé, c'est aussi j'ai pris du plaisir à trouver. C'était vraiment ça l'idée. Il n'y a pas plus de secret derrière ça. Le mot est resté, puisque les enseignants avec qui je travaillais, puisqu'on travaillait à distance, c'est un travail que je menais à distance essentiellement, c'était devenu un code, MHM, méthode heuristique de mathématiques. Et c'est resté ensuite. C'est devenu un code, c'est devenu un logo, et c'est devenu effectivement maintenant quasiment une sorte de concept.
Ouais. Et donc, cette méthode, elle repose sur quoi exactement?
Alors, sur quoi elle repose? C'est une recette compliquée. C'est vraiment une recette compliquée puisque l'idée était de synthétiser, de mettre de la cohérence dans plein de choses qu'on sait déjà faire et qu'on faisait déjà avant.
Donc vous êtes déjà inspiré de choses qui existaient,
exactement.
Finalement, hein?
Un petit peu comme l'a fait la méthode de Singapour à son époque. C'est-à-dire, j'ai relu la quasi-totalité de la littérature mathématique, de la didactique des mathématiques. Et puis, je suis allé chercher, j'ai envie de dire, les bonnes recettes. Mais pour les mettre en cohérence, avec une vision moderne des choses, avec aussi les réflexions qu'apportent les neurosciences. Les neurosciences nous apportent des réflexions modernes sur l'enseignement. Et c'est d'avoir mis aussi bien des temps de jeu où les enfants jouent, parce qu'ils ont aussi parfois perdu cette habitude de jouer, des temps d'apprentissage très traditionnels, des temps où les enfants parlent mathématiques, où ils vont faire des mathématiques dehors, dans la rue. Des choses qui existaient avant. Je suis allé chercher dans la pédagogie Freinet, donc c'est ancien. On a des outils qui viennent de la pédagogie Montessori. Et vraiment, c'est une recette très complexe où j'ai mis tout ça dans une soupière, on a tout mélangé.
Et alors, il y a ce mot de plaisir, justement. Il est très important quand on est dans le domaine des neurosciences, parce que tout ça, c'est le circuit de la récompense, Sébastien. Et ça peut aider à apprendre les maths autrement. Là, pour le coup, c'est une bonne façon de l'utiliser aussi.
C'est essentiel, c'est crucial. C'est vrai qu'on a souvent un rapport aux mathématiques, surtout chez nous, qui est un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont considérés comme des demi-dieux parce qu'ils sont très bons en maths, et tous les autres qui se protègent en disant « c'est pas pour moi, je déteste ». Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le cerveau humain, tous les cerveaux humains adore trouver la solution à des énigmes. Ils ont une capacité de raisonnement et d'abstraction. Parfois, on se dit que l'abstraction, c'est quelque chose de froid. Mais on a découvert, il y a quelques années, qu'en fait, ça active justement, ce que vous disiez, Mathieu, le système de la récompense, qu'on est fait pour se nourrir du plaisir de découvrir et de penser. Et quand on enlève toutes les barrières comme ça, qu'on se met soi-même de complexes ou de situations pyramidales où on se fait balancer des équations, si on enlève ça, on retrouve cette connexion entre l'abstraction et le plaisir. Notre cerveau est fait comme ça. Il arrive à tirer du plaisir d'abstraction. Et quand on le sait, on restaure le lien, finalement, entre la curiosité des enfants et la connaissance.
Émilie, faites appel à votre circuit de la récompense.
Apprendre
à aimer les maths. Nicolas Pinel, donc il y a des clés comme ça. C'est d'abord donner, effectivement, du plaisir aux élèves. S'adapter à leur rythme aussi, ça c'est très important.
Oui. Trouver le moyen dans des activités concrètes de classe pour répondre aux besoins de chacun. Certains enfants ont besoin d'un peu plus de temps, ont besoin de temps pour maturer les concepts.
Ouais.
D'autres sont déjà prêts à passer à autre chose. Et comment, avec la même activité, je peux répondre aux besoins de chacun? Un bouquin de maths, entre guillemets, traditionnel avec des exercices ne permet pas forcément cela. Par contre, une activité plus ouverte, avec des jeux de cartes, avec des choses qui vont construire. Voilà, en géométrie, par exemple, avec des enfants de 9-10 ans, on a travaillé sur les fractales. Et on leur a appris ce qu'était une fractale et on a appris à dessiner des fractales. Et ils sont allés plus ou moins loin dans le dessin des fractales, selon leur niveau. Et ils ont vu qu'ils produisaient quelque chose qui prenait du sens pour eux.
Ouais, donc c'est ça, il y a cette idée de manipuler, d'utiliser l'oral aussi. L'oralité, c'est important. Énoncer les choses aussi, le visuel, tout ça, ça participe à une approche complètement différente des mathématiques. Et ça fonctionne visiblement. 10 000 classes ont déjà adopté votre méthode.
Alors, c'est une estimation, je pense qu'on est à beaucoup plus maintenant, parce que j'ai énormément de retours positifs dans ces...
Mais c'est incroyable, parce que proposer un nouveau programme à l'école, on sait à quel point c'est difficile et souvent on est assez réfractaire à cela. Et vous, ça a tout de suite fonctionné parce qu'il y a des effets immédiats en fait, c'est ça qui se passe.
Dès les premières semaines, les enseignants se disent « je comprends pas pourquoi mais ça fonctionne ». J'ai beaucoup d'enseignants qui me disent « mais je reviendrai plus en arrière ».
Ouais.
Même si je laisse cette méthode ou je l'adapte à ma sauce, je reviendrai plus en arrière, j'enseignerai plus de la même façon.
Ouais.
Donc c'est ça. Ça a répondu tout de suite aux besoins des enseignants. On était en manque d'outils innovants puisqu'on avait une offre éditoriale pléthorique, mais de choses souvent assez identiques qui répondaient pas à ce que cherchaient les enseignants.
Ouais. Et puis alors, vous êtes très présent aussi sur les réseaux sociaux et sur le web, hein, parce qu'il y a cette chaîne YouTube qui fonctionne extrêmement bien. On va donner le nom, d'ailleurs, tout de suite, pour y aller, pour se brancher.
La méthode heuristique.
Voilà, tout simplement. Et là, pendant une heure et demie, vous nous expliquez le principe.
Ah oui.
Et vous nous donnez des exemples. Une heure et demie, c'est des vidéos d'une heure et demie.
Et les enseignants l'ont regardé.
Fonctionne. Voilà, c'est ça.
Ah ben, ils sont 40 ou 50 000, je sais plus, à l'avoir regardé.
Ouais, c'est
effectivement.
Ça.
Alors qu'on parle enseignement des mathématiques. Donc c'est vraiment qu'il y avait ce besoin.
Ouais.
Et puis voilà, il y a d'autres vidéos, il y a sur Twitter et sur Facebook, où il y a aussi cette idée qui fonctionne, qui fait que je réponds aux questions des enseignants. Ils ont un interlocuteur, ce qu'ils n'ont pas quand ils achètent un livre en librairie.
Ouais.
Donc j'essaie de répondre quasiment à toutes les questions, des questions pratiques, des questions très théoriques. Et c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne, c'est cet accompagnement du développement professionnel des enseignants, parce qu'ils ont besoin qu'on les aide à réfléchir.
Et il y a une interaction permanente aussi, hein, parce que vous êtes très très sollicité avec le succès évidemment de la méthode, vous recevez des dizaines et des dizaines de mails tous
c'est
les
ça.
Jours.
J'ai des nuits très courtes.
Voilà, et vous y répondez. Non mais c'est très intéressant, du coup vous allez consacrer beaucoup plus de temps à cela encore dans l'avenir.
Mes vacances et mes nuits sont limitées à un moment, donc alors il y a des enseignants qui ont pris le relais derrière moi. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux maintenant, il y a ceux que j'appelle les ambassadeurs, qui ont pris ce relais-là, qui ont compris comment ça fonctionne et qui répondent de même qu'animent. Les pages Facebook, par exemple, sont animées par des enseignants, pas par moi.
Et donc, c'est méthode heuristique. Heuristique, c'est avec un H. H-E-U, évidemment. La chaîne YouTube. Et puis donc, ce guide qui va sortir aux éditions Nathan
prochainement. Aux éditions Nathan, voilà, fin février.
Et donc, en ce moment, on peut déjà l'avoir en ligne sans aucun problème. Toutes les références sont sur le site de La Tête au Carré. La présence des femmes en mathématiques, ça, c'est un vrai sujet aussi.
Un vrai sujet aussi. Mais si des garçons et filles font des maths avec du plaisir, la question se posera plus. C'est là que ça commence, à mon sens.
On va en parler dans un instant autour du plafond de verre et d'un manga consacré justement à cette situation.
Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the steez though. And now I'm here, can't entertain no bummy boy. Need my boy fresh in a tuxedo. Me and my new cage steady blowing. I'm a woman who could teach you a little something about class. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I break my fellas off but never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes, they wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly.
I can't see.
Little Sims avec Selfish.
La Tête au Carré, le club.
La NASA, j'étais loin de me douter qu'on a engagé des...
Il y a beaucoup de femmes qui travaillent au programme spatial.
Vous trois, vous faites ça?
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
Avec Mathieu Vidard, sur France Inter.
Voilà, extrait du film Les Figures de l'Ombre pour parler de la place des femmes en science à l'appui d'un manga. Émilie Tozello et Olga Markova sont avec nous. Vous venez nous présenter donc ce manga Plafond de verre, publié aux éditions de la Fondation Ibsen Book Lab. Olga Markova, donc vous êtes biophysicienne à l'Institut Curie dans ce laboratoire polarité et division cellulaire.
Tout à fait, Mathieu.
Qu'est-ce que vous étudiez, Olga, exactement? Alors,
donc, j'étudie le rôle de la force mécanique dans la division cellulaire. Mm-hmm. Donc, c'est un projet tout à fait important parce que on va comprendre mieux la division cellulaire, la croissance des tissus dans le cas normal, mais aussi dans le cas pathologique du cancer.
Oui.
C'est le vision assez nouveau dans la science de chercher la physique qui joue rôle dans ce processus important.
Et vous êtes également directrice d'une collection Esprit Curieux, une collection de livres scientifiques pour les enfants, à partir de 3 ans, dans lesquels justement vous pouvez parler de thèmes comme le cancer.
Tout à fait. C'était le désir de raconter mon travail, donc rôle des mécaniques dans cette œuvre. À mon fils, pour qu'il sache qu'est-ce que maman fait au travail. Sauf que dans ce projet, il y a beaucoup de biologie moléculaire, des mécaniques, des biologies cellulaires. Comment on peut raconter ça à un enfant? Et mon fils, il avait 3 ans à l'époque.
Ouais.
Et donc, c'est là, quand j'avais une idée, imaginer le monde qui existe à l'intérieur du corps humain, où les molécules et les cellules deviennent les super personnages.
Ouais.
Et donc, c'est là, quand l'idée des collections est venue dans mon esprit. Après, j'ai réuni les chercheurs et artistes autour de cette idée et nous avons créé beaucoup des histoires très très amusantes.
Oui.
Nous sommes beaucoup amusés nous-mêmes, voir les cellules qui parlent entre eux, qui ont des problèmes, qui trouvent les solutions, qui amusent. Et après, le projet, il a développé grâce à Fondation Ibsen, qui nous parrainait, qui nous permit finalement de sortir les livres.
Oui. Alors, il y a 3 livres, justement. C'est Cadérine cherche un ami, une histoire sur une protéine. Il y a Monsieur Cancer veut toute la place, une histoire donc sur une cellule déréglée. Et Kini donne l'alerte, là aussi, une histoire sur le système immunitaire. Donc, tout ça aux éditions Le Buveur d'encre. Et c'est justement la Fondation Ibsen qui vous a permis de vous rencontrer, Émilie Tozello. Vous êtes mangaka.
Oui, tout à fait.
C'est ça, auteur de manga. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu exactement, car vous n'avez pas d'origine japonaise,
a priori? Non, pas du tout. Ben, en fait, c'est un rêve de petite fille. J'aime les mangas depuis longtemps. J'ai 28 ans et j'aime ça depuis que j'ai 5 ans.
Ouais.
Et j'ai travaillé pour pouvoir me payer l'école et je suis montée sur Paris.
Je ne savais pas qu'il y avait une école de manga à Paris.
Oui, il y en a plusieurs, mais du coup, moi, j'ai choisi celle où ma professeure, Kaori Yoshikawa, qui est vraiment très très bonne professeure, donc qui est japonaise et qui est mangaka en fait au Japon. Et en fait, elle est venue en France il y a 12 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'ai choisi cette école parce que cette professeure était japonaise et elle nous a appris, enseigné la méthode pour faire du manga japonais, en fait.
Ouais. Et donc, voilà. C'est votre premier manga.
Oui, tout à fait.
Qui paraît, donc on est très heureux d'en parler, d'abord parce qu'il est vraiment d'une très très grande qualité.
Merci beaucoup.
Et on croirait vraiment se pencher sur un livre dessiné par une japonaise.
Ah,
c'est Plafond de verre. Plafond de verre, donc. On le disait, c'est la Fondation Ibsen qui vous a fait vous rencontrer avec Olga
oui, tout à fait,
sur ce thème donc de la place des femmes en science.
Oui, c'est ça, sur la parité homme-femme, en fait, les complications que les femmes ont à gravir les échelons.
Mm-hmm.
D'où le fait du titre Plafond de verre, en fait, la sélection de ce titre. Mon héroïne, en fait, c'est un mélange de Olga Markova, de Geneviève Almouzni, en fait, qui est membre de l'Académie des sciences et chef d'équipe à l'Institut Curie.
Que vous avez rencontré. Aussi,
voilà, tout à fait, exactement, et qui m'a permis aussi de créer. Il y a une part d'elle, en fait, là-dedans, et puis une part de moi, forcément.
Ouais.
Voilà.
Donc, vous êtes inspirée de tous ces témoignages, des entretiens, par exemple, avec Olga,
tout à fait.
Pour inventer, créer ce personnage féminin qui va rencontrer quelques difficultés, justement, à pouvoir accéder à certains postes.
Bon, 60 pages, c'était long comme travail, mais c'est un format court, donc on a mis l'essentiel qui était à mettre, en fait, le message essentiel. Et donc, en fait, la partie qui correspond beaucoup à Olga, c'est toute la partie de l'entretien, en fait.
Ouais, avec des questions qui sont absolument hallucinantes, quand même. C'est-à-dire qu'on pose des questions, Olga Markova, à des femmes scientifiques qu'on n'oserait jamais poser à un homme,
Quel type
de questions, par exemple?
La question que j'ai eue pendant l'entretien, c'est: est-ce que votre mari est d'accord de placer avec vous si vous avez à avoir cette poste? Qui, je trouve, un peu... qui n'est pas forcément relié à mon projet scientifique.
Est-ce que vous attendez des enfants? Est-ce que vous êtes enceinte? C'est ce type de questions qu'on peut poser.
En fait, ça ne correspond en rien avec les compétences de la personne, qu'elle soit homme ou femme. Si la personne est compétente, elle est compétente, point, et peu importe son sexe, en fait.
On va écouter un reportage, justement, sur les femmes ingénieurs. C'était en 2015, c'est l'AFP qui l'a tourné. Écoutez, ça dit tout.
La conductance.
Ce matin, c'est cours d'électronique pour ses élèves en première année d'école d'ingénieurs près de Paris. Ici, seuls 15% des effectifs sont des filles. La formation, spécialisée en aéronautique, peine à attirer des jeunes femmes. Pourtant, elles s'en sortent souvent mieux que les garçons.
Mon père a toujours communiqué avec moi des passions d'hommes en quelque sorte, alors que mes amies, elles n'ont pas forcément leurs parents ou leur père qui leur parlent des voitures, des avions, des trucs comme ça. Elles n'imaginent même pas travailler dans un domaine comme ça.
Autocensure, manque d'informations sur le métier d'ingénieur, les barrières sont encore nombreuses. Dans l'industrie, seul un ingénieur sur cinq en moyenne est une ingénieure. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus la proportion de femmes baisse. Karine Boissy-Rousseau fait figure d'exception. Sous sa coupe, 450 personnes et une trentaine de gros clients, des hommes pour la plupart.
J'ai remarqué qu'effectivement, il était assez difficile parfois pour certains de mes interlocuteurs de me positionner. Et donc j'ai dû apprendre à dire que j'étais en fait la directrice de mon activité.
Voilà, incroyable. Hein. Il faut préciser les choses pour être comprise, justement. Olga Markova, alors vous aussi, vous dirigez finalement au sein de cette collection, c'est vous la chef hein.
Oui, je dirige à peu près la groupe des 21 personnes, qui est finalement le travail des chefs d'équipe.
Et dans votre labo, vous êtes nombreuses ou pas?
Alors, donc je travaille à l'Institut Curie.
Ouais.
Je pense que c'est le lieu assez particulier parce que justement, elle est fondée par la femme. Et l'Institut Curie, la proportion des femmes, elle est assez augmentée par rapport à les autres. Par exemple, on a 33% des chefs d'équipe à l'Institut Curie.
Ouais.
Dès qu'il y a l'Europe, ce chiffre est plutôt 15, pas plus que ça.
Il y a la figure de Marie Curie. Hein,
il y a quand même la figure de Marie Curie, mais il y a aussi la politique de l'Institut qui encourage les femmes de devenir scientifiques et travailler dans la science.
Nicolas Pinel, le problème en mathématiques, il est crucial, comme en physique d'ailleurs. Hein. C'est des secteurs qui sont vraiment délaissés par les femmes.
Complètement. Mais les mathématiques ont servi et servent encore notre société à faire un tri dans la société, à créer des élites. Et effectivement, on pense que très très tôt, on sous-entend aux jeunes filles que les mathématiques c'est pas pour elles, que les sciences c'est pas pour elles. Et c'est là qu'il y a une erreur fondamentale de notre société, puisque quand elles avancent, on voit qu'elles sont performantes et plus performantes que les hommes.
Mmh. Et comment on combat ce malentendu ?
Je pense que la clé, c'est la connaissance et l'enseignement. C'est que les jeunes filles se disent très tôt qu'elles sont tout à fait capables de réussir aussi bien que les hommes, que quelle que soit la discipline, que ce soit les mathématiques ou les sciences, elles y ont leur place. Et ça passe par le discours de l'enseignant et par le discours aussi des établissements, à les encourager. Et peut-être aussi le travail qui est fait dans cette collection est important de montrer qu'il y a des figures féminines qui ont marqué l'histoire. Et ça, c'est récent et je pense que c'est un travail à continuer. Il n'y a pas que des hommes qui ont marqué l'histoire des sciences, et il y a beaucoup de femmes qui ont fait des choses très importantes.
Donc ça, Olga, c'est une idée aussi hein, de mettre en avant celles qui réussissent dans ce domaine. Hein.
Oui, je voulais ajouter qu'en effet, il y a cette espèce de difficulté à rentrer dans le monde des mathématiques physiques pour une fille. J'ai été au collège, j'ai parti aux premières années de l'essence, et j'ai participé dans le concours des physiques. Mmh. On était 15, il fallait choisir deux. Le professeur m'a donné le problème, donne à tout le monde, mais à moi, ils disent, toi, c'est même pas la peine que tu essaies parce que tu es une fille,
incroyable.
Tu vas pas arriver.
Vous avez entendu ça?
J'ai entendu ça. J'étais 20 ans, peut-être. Oui. Et il faut préciser que tous les autres camarades, c'était les garçons. J'étais la seule fille dans cette concours.
Et ça peut être tout à fait catastrophique, évidemment, pour la confiance en soi.
C'est tout à fait catastrophique.
Pour avancer,
et
hein.
le seule possibilité que j'ai arrivé sans sortir, qu'il y avait une autre professeure, la femme, qui m'a pris dans les mains, elle a dit, toi, tu vas arriver, tu es intelligente, il n'y a pas de problème que tu es une fille.
Heureusement qu'elle était là, effectivement.
Tout à fait, c'était Émilie important.
Émilie Tozello, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes auteurs de manga?
En fait, c'est un milieu assez varié. Ça dépend du type après aussi qu'on fait, mais moi plutôt shoujo, donc tout ce qui est romance, ce genre de choses. Et après, il y a le shonen et le seinen, et là, ça touche jeunes garçons et plus adultes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des femmes qui sont autrices aussi de shonen et seinen, en fait. Donc c'est varié.
Merci en tout cas de nous avoir précisé qu'évidemment, le livre se lit dans le sens de lecture japonaise, c'est-à-dire de droite à gauche, de la dernière page pour nous
première
page,
fait, hein,
pour bien suivre cette histoire. Plafond de verre, c'est votre premier manga.
Oui.
Et c'est donc avec la fondation Ibsen et Book Lab, et puis également donc cette collection Olga Markova dont vous vous occupez, avec L'Esprit Curieux, ces livres scientifiques pour les enfants de moins de 3 ans. Vous restez avec nous, le sujet qui va suivre va beaucoup vous intéresser, parce qu'on va y parler du cerveau. Thank you.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celle qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celle qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin.
Les passantes, c'était Georges Brassens.
La tête au carré sur France Inter.
Peut-être vous avez vu Donald Trump et Kim Jong-un. On dirait la finale de la Coupe du Monde des fous. Je te jure, on dirait on a pris les deux plus fous qu'on a trouvés. On s'est dit, viens, on les fait discuter, on regarde ce qui se passe, on verra. Peut-être l'univers, il va bugger, on sait pas ce qui va se passer. Comment on a réussi à donner autant de pouvoir à des gens aussi fous? Je comprends. Moi, de toute façon, plus je regarde l'humanité, plus je me dis, en fait, on est tous fous, en fait. Là, en ce moment, on réalise. On est en train de détruire la nature qui nous a donné la vie pour faire de l'oseille. Et on continue. On pète les plombs. Comment on peut sacrifier quelque chose qui n'a pas de prix contre quelque chose qui n'a pas de valeur? Parce que l'argent, ça n'a pas de valeur. C'est nous, on l'imprime. Ça n'existe pas. C'est nous, on l'imprime. Tu vas voir un panda, tu lui dis 1 million d'euros ou du bambou, il va prendre le bambou. Et il a raison. Tu vois, parce que le billet, c'est nous, on l'imprime. Mais va imprimer une pomme. Comment tu fais? Vas-y, trouve. Dis-moi, je te donne les outils, imprime une pomme. Comment t'imprimes une abeille qui fait en sorte que les plantes, elles vont baiser entre elles, se reproduire, grossir, nous donner l'oxygène dont nous, on a besoin? Comment on imprime ça? Tu vois, niveau business, c'est stupide. C'est comme si on vendait nos jambes pour acheter des chaussures. Tu sais ce que je veux dire? Ça ne marche pas. On va faire quoi avec?
Voilà un sketch de Roman Frécinet sur Click TV en juin dernier pour introduire votre sujet. Mmh. Sébastien, ça va? Vous approuvez ce que vous venez d'entendre? C'est une bonne introduction, non?
Oui, je trouve que ça évoque très peu de temps beaucoup de choses et sur un mode assez poétique, en fait.
Oui, absolument. Mmh. Et sur la convoitise financière et le fait qu'on délaisse aussi les choses qui nous concernent comme la nature. Hein, mmh. Avec ce livre, Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. C'est un livre que vous publiez en tant qu'auteur, donc Sébastien Bolle, aux éditions Robert Laffont. Le cerveau, bien sûr, est au cœur de ce livre, cet organe qui vous passionne. Et vous en avez découvert un aspect dont vous dites qu'il vous a glacé.
Bon, au départ, le cerveau, je crois qu'aujourd'hui, on le considère comme un organe fabuleux. On dit toujours que c'est l'organe le plus complexe de l'univers, que c'est une merveille de technologie, que ça nous a donné la conscience, la réflexion, l'abstraction, la capacité d'aller sur la Lune, de fabriquer des smartphones, de peindre la Joconde. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce cerveau, comme on l'a entendu dans le sketch qui précédait, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'il nous a placés au sommet, entre guillemets, de la hiérarchie des espèces. Nous avons conquis la planète, mais après l'avoir conquise, on est en train de la détruire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les derniers chiffres de l'Académie des sciences américaines, le réchauffement climatique, c'est l'équivalent de 6 bombes d'Hiroshima par seconde dans les océans. Donc on est en train de chauffer une cocotte minute à blanc pour tout faire péter. Et alors, ce qui est en même temps amusant, c'est qu'on le sait, mais que quotidiennement, on continue à fonctionner à peu près de la même façon. On a des petites prises de conscience éparses.
Et c'est cette inaction qui vous a beaucoup fait réfléchir, finalement.
Oui, à l'échelle de la planète, on continue. Tous les indicateurs économiques de la croissance sont globalement en hausse. La démographie aussi, la fabrication de tous les ustensiles de confort, en fait, des besoins créés, sont en hausse. Donc c'est comme si on avait conscience d'une catastrophe, mais que globalement, on continue d'appuyer sur l'accélérateur pour aller dans le mur. Alors pour moi, qui m'intéresse au cerveau, c'est quand même bizarre. Je me dis, on est censé être rationnel, mais on l'est pas. Donc, qu'est-ce qui n'est pas rationnel? Qu'est-ce qui bug?
Voilà.
Parce qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences et à l'imagerie cérébrale, on peut vraiment voir les connexions dans le cerveau. C'est peut-être notre chance qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder à l'intérieur. Parce que je pense qu'on pourrait pas se passer de regarder à l'intérieur. Il faut qu'on sache ce qu'on est comme espèce.
Mais alors là, ce qui est étonnant finalement dans cet ouvrage, c'est que vous montrez une part très sombre au fond et presque défectueuse de notre cerveau, même s'il faut relativiser parce qu'on a quand même toujours la main sur les choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous influence beaucoup. Et ce que vous décrivez comme situation, notre inaction, elle peut s'expliquer justement par la biologie et ce qui se cache dans notre cerveau.
Oui, et c'est défectueux, je pense effectivement. L'important, c'est de voir où est le défaut. Alors, quand on voit aujourd'hui tous les problèmes auxquels on est confronté, l'agriculture intensive, la production des automobiles, de la domotique, de la connectique, tous les appareils numériques qu'on renouvelle tous les 2-3 ans, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre liées simplement au fonctionnement des serveurs informatiques qui font fonctionner les réseaux sociaux souvent pour pas grand-chose, on se rend compte que tout ça, en fait, on peut le mettre en parallèle avec des besoins fondamentaux qu'on peut localiser dans notre cerveau, ce qu'on appelle les renforceurs primaires. Il y a une petite partie de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui fait à peu près la taille d'une grosse prune.
Alors, faut bien retenir ce nom parce que c'est au cœur de tout, finalement. Voilà. Le striatum.
Oui, et qui est présent, en fait, chez tous les mammifères. Et qui nous libère de la dopamine quand on fait certaines choses très très simples, et on sait très bien lesquelles. Ce qui libère de la dopamine dans notre striatum, c'est manger, c'est se reproduire, avoir des relations sexuelles, c'est avoir du statut social, c'est-à-dire essayer de se sentir plus important que les autres, c'est accumuler le plus possible d'informations, et c'est faire le moins possible d'effort. Alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui...
Et ça, c'est la faute du striatum.
Le striatum, il nous pousse à faire ça en permanence. Aujourd'hui, on est 13% d'obèses à la surface de la planète. Donc, on meurt plus de suralimentation que de dénutrition. Et les épidémies d'addiction à la nourriture sont entièrement expliquées par ce striatum qui en veut toujours plus.
Il ressemble à quoi d'ailleurs dans le cerveau? C'est vraiment un tout petit organe? Il faut l'imaginer comment alors?
C'est au centre du cerveau, ça a un aspect un peu strié justement, c'est un peu globuleux, puis il y a une partie un peu arquée qui retourne vers l'arrière du cerveau comme ça, et qui communique avec tous les territoires du cerveau, notamment le cortex, qui lui fabrique des outils, il fabrique des moissonneuses-batteuses, fabrique des machines à laver, fabrique des smartphones.
Donc, il y a du génie quand même dans ce mécanisme-là.
Mais le génie, c'est le génie instrumental, c'est le cortex, c'est lui l'intelligence. Mais il est au service du striatum qui, lui, veut du sexe, de la nourriture, de l'information, du confort et du statut social. Donc si vous regardez tout ce qu'on fabrique de plus perfectionné, c'est toujours tourné vers la satisfaction de ces besoins-là. Pareil pour regarder Internet aujourd'hui, ça sert principalement à regarder des vidéos, et un tiers c'est des vidéos pornographiques, et c'est 136 milliards de vidéos visionnées à l'année, et c'est donc un tiers de l'équivalent de l'effet de serre lié au transport aérien, parce qu'Internet aujourd'hui c'est l'équivalent du transport aérien. Donc c'est des besoins fondamentaux qui en fait... Font tourner cette machine gigantesque, et je crois qu'il faut prendre conscience du fait qu'on est toujours mu par ces 5 besoins fondamentaux et se demander est-ce qu'on peut se créer d'autres motivations aussi profondes que celle-là, parce qu'aujourd'hui...
Donc ça, c'est une machine à plaisir, quoi. C'est une machine à créer du plaisir.
Oui, tout à fait.
Et de la récompense.
Voilà, ce que disait Hervé Guyanard tout à l'heure, c'est le désir. Le désir, pour l'instant, il est axé sur ses besoins fondamentaux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui nous ont permis de survivre pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, ça s'est ancré dans notre patrimoine génétique, dans notre hardware cérébral. C'est très difficile d'en dévier. On a toujours besoin de fonctionner comme ça.
Nicolas Pinel, attention donc à la manipulation du plaisir. Hein. Vous c'est qui ça. Dites que pour faire les mathématiques, il faut justement donner beaucoup de plaisir. On voit que c'est à double tranchant parfois aussi, hein, quand même.
Ou ça peut être la solution.
Ouais.
Oui. Si je reprends la fin, je me permets juste la fin du livre de Sébastien Boller,
ouais,
où il nous met que la solution, ce serait à la société entière de mettre à l'honneur la connaissance et ses figures de proue de manière à la rendre attractive et valorisante,
ouais,
pour nos cerveaux. Si au lieu de chercher le sexe, la valorisation sociale, la nourriture, etc., c'était la connaissance qui devenait le fer de lance de notre travail, bah, il y aurait beaucoup de choses qui iraient mieux, me semble-t-il.
Ouais.
Oui, et c'est pas impossible, parce qu'en fait, le besoin, parmi les 5 besoins fondamentaux, il y a celui de statut social. Mmh. Aujourd'hui, dans notre société, le statut social, il est lié au fait d'avoir une grosse voiture, d'avoir un smartphone dernier cri, de gagner beaucoup d'argent, ou d'être un footballeur, ou d'être une starlette qui passe sur les réseaux sociaux. Ok. Mais on peut créer du statut social différemment. On peut décider de ne plus donner la prééminence, par exemple, dans la visibilité médiatique, non pas à ces personnes-là, mais à des grands intellectuels, ou à des gens qui vivent de façon sobre, ou à des personnes qui sont très altruistes. Si vraiment on considérait que être valorisé aujourd'hui aux yeux des autres, c'était ça, à ce moment-là, on se mettrait tous à courir après ça, parce que notre striatum veut être reconnu. Donc il faut arriver à dévier un peu le flux de dopamine.
Mais ce qui est, oui, alors c'est ça, mais ce qui est difficile finalement, c'est que c'est une action qui est presque contre nature, hein, parce que vous dites que notre cerveau naturellement nous emmène vers la recherche de la satisfaction, et que bah, là, finalement, il faudrait faire marche arrière et lutter contre.
Oui. Notre programme de départ, c'est ces 5 motivations primitives, d'accord ? Le problème, c'est qu'on a quand même créé un système économique, industriel et financier qui nourrit ça. En gros, aujourd'hui, le système néolibéral nourrit ces 5 renforceurs primaires, parce que c'est monnayable, c'est bancable, ça rapporte. Mais c'est une énorme erreur, parce qu'en renforçant ces 5 besoins du striatum, on sort pas de l'affaire, on va juste plus vite dans le mur. En revanche, on peut très bien changer complètement les connexions dans le cerveau en imposant une autre norme sociale. Il y a une étude fantastique qui a été publiée l'an dernier sur l'altruisme. Dans cette expérience, on donnait à des personnes une somme d'argent en leur donnant le choix entre garder pour eux ou partager. Mmh. Et on s'est rendu compte que bah déjà, les femmes avaient plus tendance à partager que les hommes. Et deuxièmement, le truc incroyable,
un grand sourire, voilà.
C'est que le striatum des femmes s'activait quand elles donnaient. Donc ça, c'était quand même une nouveauté.
Pas celui des hommes ?
Non, le striatum des hommes s'activait quand ils gardaient pour eux.
Incroyable.
Mais alors, donc les scientifiques se sont dit, est-ce que c'est une différence biologique, génétique ? Non, en fait, ça tient pas debout. C'est pas une différence génétique qui peut expliquer ça. Et ils sont arrivés à l'idée, les auteurs de cette étude, qu'en fait, c'est une affaire de conditionnement, c'est-à-dire que les petites filles, très petites, on leur dit « c'est bien, tu as partagé avec ton frère ou ta sœur », alors que les petits garçons, on dit « c'est bien, tu t'es battu pour ton bout de beefsteak, tu t'es pas laissé marcher sur les pieds, tu t'es imposé ». Et donc, c'est la découverte qu'en fait, ce striatum qui gouverne nos actions, il peut être forgé, en fait, dès l'enfance, par un discours social environnant. Alors, on peut se dire que les filles, elles ont le mauvais rôle là-dedans, mais non, en fait, elles ont le bon rôle, elles sont en avant-garde du monde qu'on pourrait essayer de sauver. Si on éduquait tout le monde de cette façon-là, à ce moment-là, notre dopamine serait associée à des actes tournés soit vers l'autre, soit vers la planète.
Alors, justement, il n'y a pas de fatalité à cette histoire, quand même, heureusement, on a encore la main sur le boîtier de pilotage, Sébastien Boller, et on peut éduquer, justement, essayer de maîtriser un peu mieux notre striatum. C'est ça, finalement, l'histoire, pour que notre cerveau ne nous laisse pas simplement avoir envie de choses qui nous donnent du plaisir, quoi. Hein.
Tout à fait. En fait, je pense plutôt qu'on pourra jamais sortir du plaisir. Mais on peut avoir plus de plaisir avec moins de stimuli, moins de consommation. Mm-hmm. Alors que normalement, on a malheureusement ce mécanisme terrifiant qui veut qu'on en veut toujours plus. C'est-à-dire que les neurones à dopamine se lassent. Si vous avez tous les jours le même stimulus, vous allez vous lasser assez vite. Vous achetez une voiture suréquipée, vous êtes tout content, vous avez une décharge de dopamine. Mmh. Un mois après, vous regardez déjà le modèle suivant. Bon, parce que les neurones à dopamine se lassent. Et ça, c'est le fondement de la croissance, en fait, dans notre cerveau. Mais on peut imaginer, en fait, de garder beaucoup de plaisir en diminuant les doses, à condition d'utiliser notre conscience. Notre conscience, elle n'est pas dans le striatum, elle est dans tout ce qui est autour du cerveau, la partie la plus évoluée, le cortex humain, qui malheureusement aujourd'hui n'est utilisé qu'à faire des machines toujours plus perfectionnées, mais qui pourrait être utilisé pour créer plus de conscience, la pleine conscience, qui est développée par ces techniques très en vogue, comme la méditation, parce qu'à ce moment-là, on s'aperçoit que même avec une toute petite stimulation, très peu à manger par exemple, à condition de développer la conscience de nos stimulus, on peut faire libérer plus de dopamine, avoir plus de plaisir.
Et on peut prendre du plaisir aussi dans ces actions-là.
Voilà. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est une démarche personnelle que chacun peut mettre en marche, sans arrêt rejeter la faute sur des facteurs conjoncturels extérieurs.
Et c'est tout à fait passionnant, et c'est un grand enjeu aussi pour l'humanité, on peut le dire comme ça, de voir les choses aussi aussi par cet aspect des neurosciences et de la biologie. Ça s'appelle le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. C'est passionnant et c'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup à toutes et à tous. On peut simplement signaler, Émilie Tozello, que le manga dont on a parlé ensemble tout à l'heure, il est gratuit. Hein.
Oui, tout à fait. Il va être distribué gratuitement et puis on peut le commander aussi sur le site internet de la Fondation Ibsen. Vous pouvez avoir, et puis c'est un bon support pour tout ce qui est collège, lycée, étant donné que c'est un support manga.
Voilà. Et il y a deux autres ouvrages aussi gratuits
à consulter. Tout à fait, oui, de mes camarades.
Ouais. Toujours sur la place des femmes. Merci beaucoup en tout cas à vous tous. Toutes les infos sont sur le site de la Tête au Carré. Merci à Anne-Laure Cochet qui était aujourd'hui à la technique. Dans un instant, ce sera Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bon week-end.